RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Si vous êtes fidèle à l'émission Je pense donc j'agis depuis sa création il y a 4 ans, vous avez certainement déjà entendu les thématiques autour des aidants familiaux. Vous savez, ces piliers silencieux qui soutiennent leurs proches malades ou en situation de dépendance au quotidien et qui sont de plus en plus reconnus par la société. Mais s'il y a bien un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui des jeunes aidants. Et pour eux, c'est une autre histoire. Il serait plus de 500 000 en France, enfants, ados, jeunes adultes, des jeunes souvent invisibles aux yeux de la société, qui endossent des responsabilités qui dépassent largement leur âge. Ils doivent jongler entre les exigences de l'école, les activités de loisirs et les tâches de soins et de soutien à un proche malade ou en situation de handicap. Mais qu'affrontent-ils au quotidien? Comment se retrouvent-ils dans cette situation? On va en discuter avec nos invités dans Je pense donc j'agis. Mais parler de la situation des jeunes aidants, c'est aussi regarder l'impact psychologique, émotionnel et social de leur rôle sur leur développement et leur bien-être. Et c'est aussi parler des initiatives et des politiques nécessaire pour mieux soutenir ces jeunes héros et leur offrir le soutien dont ils ont tant besoin. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez été aidant, vous vous êtes occupé d'un de vos parents ou d'un membre de votre fratrie quand vous étiez jeune. Racontez-nous votre expérience, quelles difficultés avez-vous rencontrées, comment avez-vous été aidé. Tous vos témoignages sont importants sur les aidants ce matin au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir 3 invités. Je commence avec vous, Guillemette de Préval, bonjour.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous depuis les studios de Radio Notre-Dame à Paris. Vous êtes une habituée de l'émission, hein. Il vous manque juste la carte de fidélité. Vous êtes journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Et c'est grâce à vous ce matin qu'on peut réaliser cette émission sur les jeunes aidants. Nous autres jeunes aidants, c'est d'ailleurs l'intitulé du dossier que vous proposez pour ce mois de mai et de juin d'ailleurs. Pourquoi ce sujet? Pourquoi vous êtes attaqué aux jeunes aidants, Guillemette?
Comme vous l'avez dit un peu en introduction, Melchior, on parle de plus en plus des proches aidants, etc. Mais on pense souvent aux conjoints, aux parents qui sont de fait souvent en première ligne. Mais on oublie souvent un peu les aidants d'à côté, un peu de l'ombre, et notamment les jeunes aidants. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment leur donner la parole et voilà, pour qu'ils nous parlent de leur quotidien en tant que jeunes aidants, donc leurs difficultés, les souffrances aussi qu'ils pouvaient vivre. Et mais aussi voilà la réalité aussi, ce qui enfin beaucoup nous évoque tout ce qu'ils ont pu déployer aussi, toutes les qualités qu'ils ont pu déployer aux côtés de leurs proches aidants.
Et on va l'entendre, hein, ça reste relativement difficile de vraiment dessiner les contours de ce statut peu visible dans la société, et on va avoir l'occasion d'en parler. Avec nous également Amaranta Bourgeois. Bonjour Amaranta.
Bonjour Melchior, bonjour Guillemette, et puis bonjour à votre troisième invité Manon.
Que je vous présente dans un instant. Vous êtes également une habituée, je ne le cache pas à nos auditeurs de l'émission Je pense donc j'agis. Vous êtes la directrice de l'association nationale JAD, c'est presque l'acronyme de Jeunes Aidants Ensemble, hein, pour être précis. C'est certainement aussi l'association la plus utile autour de la reconnaissance des jeunes aidants, Amaranta Bourgeois. Je vais vous poser une question simple, mais pourtant qui est relativement difficile, parce que même en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était un sujet extrêmement vaste. Qui sont les jeunes aidants?
Alors, ce qu'on appelle jeune aidant, c'est un enfant ou un adolescent qui aide au quotidien un proche parent malade en situation de handicap ou de perte d'autonomie également. On fait une petite distinction avec les jeunes adultes aidants, qui sont plutôt la tranche 18-25 ans, tout simplement parce que les droits aujourd'hui ne sont pas les mêmes pour les mineurs que pour les majeurs. Mais bien sûr, voilà, c'est pas tant la question de la jeunesse que la question de la majorité. Voilà. Vous avez raison, l'Association nationale JAD est pionnière sur le sujet. Nous fêtons cette année la 10e année du dispositif d'atelier Cinéma Répit pour les jeunes aidants.
Oui. Voilà. Et les aidants, les jeunes aidants, en général, ils ont moins de 25 ans, hein, si on devait trouver une petite définition. Mais c'est là aussi, c'est un terme qui tente de se faire une place dans le vocabulaire courant en France. Et notre troisième invité, alors vous l'avez dit, Amaranta, c'est vous, Manon Duboil. Bonjour.
Bonjour Melchior, bonjour Guillemette et bonjour Amaranta.
Bienvenue dans Je pense donc j'agis. Vous avez 22 ans, bientôt 23. Vous êtes étudiante en dernière année de master et vous allez bientôt passer le concours des professeurs des écoles. J'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière quand vous aviez 7 ans ensemble, Manon Duboil. Que s'est-il passé dans votre vie ?
Alors forcément, j'ai peu de souvenirs à ce propos, mais à 7 ans, mon papa a été diagnostiqué porteur de la maladie de Parkinson. Donc on a vraiment posé le constat et la maladie.
Oui, et là ça a été pour vous, ça a été un moment compliqué, vous vous rendez compte maintenant ?
Alors forcément à 7 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc c'est vraiment les dires de mes frères et sœurs et de ma maman. Mais c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs de mon papa sans cette maladie. C'est vrai que j'ai toujours eu ce souvenir d'avoir eu mon papa qui était malade.
Vous témoignez dans la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées et vous dites que la maladie a toujours fait partie de votre famille parce que votre maman aussi, un peu plus tard, est tombée en dépression. Et là aussi, ça a été une bascule dans votre famille.
Oui, c'est ça. En fin de compte, j'ai évoqué le mot « nuage noir » à Guillemette de Préval qui a super bien résumé notre échange qu'on avait eu. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au quotidien, on a toujours des discussions qui tournent autour de la maladie de notre papa. Et ça pèse, en fait, dans notre quotidien, etc. Et en effet, comme vous le dites, ma maman a fait un burn-out avec son travail. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que même elle ne se considère pas toujours malade. Elle a des forcément dans ce genre de dans une dépression, etc. On a des hauts, on a des bas, et c'est vrai que mine de rien, nous, dans notre fratrie, cela joue aussi, et dans notre famille de manière plus générale, cela nous impacte au quotidien. C'est vrai que si on regarde bien, on aide autant notre papa que notre maman sur le plan psychologique en fin de compte.
Guillemette de Préval, dans le dernier numéro de la revue Ombre et Lumière, vous donnez la parole justement à des jeunes aidants, mais aussi à des parents, mais ça on aura l'occasion d'en discuter. Gabriel, Wassim, Manon, qui est avec nous ce matin. Alors même si tous les parcours de vie sont différents, et notamment dans les familles, il y a quand même des similitudes que vous avez retrouvées.
Oui, moi, ce qui m'a frappée, c'est le mot « vigilance » ou « hyper-vigilance ». Ça, je crois qu'il a été évoqué par chacune des personnes que j'ai pu interroger. Peut-être moins Wassim, donc un jeune garçon de 13 ans. Voilà, 13 ans, on voyait quand même bien la différence entre quelqu'un comme Manon, voilà, qui a la vingtaine, qui a un peu plus de recul, plus de bouteilles sur ce qui se passe. Mais sinon, voilà, vraiment cette vigilance et cette... aussi cette on ne peut pas faire trop de vagues, c'est déjà on ne peut pas rajouter des problèmes à la famille vu que c'est déjà assez compliqué comme ça, donc le côté bon, je vais me faire un petit peu discret, je vais un peu avancer dans mon coin, voilà, une sorte de discrétion qui était assez commune à toutes les personnes que j'ai pu interroger.
Ouais, Maranta Bourgeois, cette vigilance elle est marquante, elle revient beaucoup dans les témoignages.
Systématiquement dans les témoignages. Alors on fera peut-être une petite distinction entre vigilance et hyper-vigilance. Bien évidemment, quand on a un proche parent malade, on est vigilant à son confort, à son bien-être. Voilà, parfois il y a des situations d'hyper-vigilance parce que le proche présente des troubles du comportement ou des attitudes qui pourraient le mettre en danger ou mettre les autres en danger. Donc voilà, c'est important ici de rappeler que bien sûr ça fait partie de toutes les missions de très nombreux jeunes aidants, mais à des degrés différents.
Manon utilisait le terme de bascule. Alors, c'est un peu aussi ce qu'on peut lire dans les témoignages. Ce qu'il faut retenir, Amaranta Bourgeois, c'est que pour un jeune qui est confronté au handicap ou à la maladie d'un proche, souvent d'un parent, mais ça peut être aussi d'un frère ou d'une sœur, il y a un moment où, c'est pas un déclic pour le coup, mais c'est vraiment une bascule où tout va changer dans la famille, tout va être bouleversé. Amaranta.
Oui, alors il y a un moment et puis parfois et puis parfois il y a des situations où le jeune naît déjà dans une famille
Oui.
où la personne, le parent, quels que soient les liens de parenté, est déjà malade ou en situation de handicap. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fonction de l'évolution de la pathologie du proche, mais aussi en fonction du développement de l'enfant, les relations peuvent changer et il peut y avoir différents moments de déclic à la fois sur la prise de conscience de son rôle et de l'importance de son rôle pour son proche, et puis à la fois par rapport à son propre développement. Si je vous disais que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que quasiment un tout petit peu plus de 12% des collégiens sont des jeunes aidants, 14% des lycéens et 16% des étudiants. Donc on voit bien qu'avec l'âge, il y a aussi une évolution. On est plus aidant, plus on vieillit, plus on est aidant, potentiellement. Et donc, il s'agit de pouvoir faire de la prévention et d'accompagner les jeunes qui deviennent aidants très tôt, de manière à ce que les répercussions soient le plus possible limitées.
On va parler de l'accompagnement et de la prévention d'ailleurs dans cette émission. Rassurez-vous, Amaranta Bourgeois. Manon Dubois, si je reviens sur votre témoignage, vous dites aussi que vous vous êtes un peu construite autour de la maladie de votre papa et puis de la dépression de votre maman. Vous étiez vraiment constamment avec eux autour d'eux lors de ces épreuves.
Oui, c'est exactement ça, parce que pour revenir un petit peu sur notre schéma familial, nous sommes une fratrie de 3 enfants, mais j'ai 14 et 18 ans d'écart avec mes frères et sœurs. Donc forcément, quand le diagnostic a été posé, ils étaient déjà dans la vingtaine et dans la vie active, ils s'étaient construits déjà en tant que personne. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vécu juste un petit peu comme une enfant unique, même si on est très très proche avec mes frères et sœurs. Et je salue d'ailleurs ma sœur qui m'écoute aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais un petit peu comme une enfant unique. Et donc, j'avais que mes 2 parents au quotidien à la maison, 24 heures sur 24, avec mes frères et sœurs qui venaient très très régulièrement. Mais c'est vrai que oui, moi, je me suis construite. Enfin, de toute manière, quand je me présente, c'est souvent, j'en viens très rapidement à dire que mon papa est malade, et c'est parce que ça explique beaucoup de choses dans mon quotidien, dans ma personnalité, etc.
Est-ce que c'était lourd à vivre pour vous quand vous étiez plus jeune? Alors peut-être pas à 7 ans parce que vous avez peut-être peu de souvenirs, mais un peu plus tard, on va dire à l'adolescence, quand la puberté arrive, quand finalement vous devenez une jeune fille.
Alors pour mon cas, je dirais que non.
Oui.
Et le plus dur à vivre, en fait, a été maintenant
Ah
et
oui.
vraiment dans les quelques mois qui précèdent notre émission, dans le sens où je pense qu'avec mon concours qui approche, les questions aussi qu'on se pose en tant que jeune adulte, puisqu'on est vraiment dans la vingtaine, les études se terminent, on se pose beaucoup de questions, on remet beaucoup de choses en question, et c'est là où j'ai un petit peu craqué, j'ai eu besoin de chercher du réconfort, et j'ai trouvé justement l'association JADE. Mais sinon, en tant qu'adolescente, pas vraiment. Après, j'ai toujours eu une personnalité assez enjouée, assez dynamique, assez positive. Mais par contre, à chaque fois, j'ai toujours dit que je n'avais pas les mêmes préoccupations que mes amis. Et des fois, ça, ils pouvaient pas l'entendre ou le comprendre. C'était pas de leur faute, mais c'est vrai que c'est un fait. Il faut l'avoir en tête. Et c'est vrai que je pense qu'implicitement, ça a développé chez moi une certaine maturité parce que je me suis toujours un petit peu occupée seule. Mes devoirs, c'était toute seule. Ma maman n'avait pas de problème avec moi de comportement ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait de crise d'adolescence,
Ouais,
etc.
Je rappelle que vous avez la parole dans Je pense donc j'agis ce matin pour témoigner. On parle de la situation des jeunes aidants en France. Si vous avez connu, vous, cette situation quand vous étiez plus jeune, ou même en tant que parent d'ailleurs, hein, ça nous intéresse, venez témoigner au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Guillemette de Préval, je rappelle que vous êtes journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et on présente ce très beau dossier que vous avez réalisé. Nous autres jeunes aidants, qui est disponible pour le mois de mai et le mois de juin. Qu'avez-vous découvert dans cette enquête? Est-ce que vous avez découvert un monde à part entière?
Oui, comme dans
Comme
chaque
souvent
dossier,
d'ailleurs, oui.
comme souvent. Non, mais c'est que quand même découvert, déjà, Amaranta évoquait des chiffres, et c'est que tout de suite, un lycéen sur 4, en gros à peu près, hein, selon une étude qui était réalisée en 2021. Déjà, ça montre quand même que c'est une réalité pas, enfin, qui est silencieuse, mais qui est vraiment, vraiment là. Et sinon, à travers tous les témoignages, moi, enfin, ce qui était assez édifiant, c'était à la fois, enfin, la lourdeur de la situation. Alors, tout dépendait aussi un peu du schéma familial, comme évoque Manon. Si on est enfant unique, si une famille monoparentale. Enfin, voilà, ça dépend aussi des contours. Mais à chaque fois, ce que je voyais bien parmi les personnes interrogées, c'était pas une rancœur vis-à-vis de la situation qui leur était imposée. Mais par contre, voilà, une envie de, voilà, un peu déposer leur fardeau, d'avoir besoin de soutien à côté, mais voilà, ils aimaient leurs proches, ils aimaient leurs frères, sœurs, leurs parents. Et ça, je trouvais que cet équilibre était assez, assez édifiant à entendre, en tout cas.
Pour beaucoup, Amaranta Bourgeois, il est normal, je mets ce mot entre guillemets, normal d'aider un proche pour ces jeunes.
Oui, parce que les danses, c'est avant tout une relation. C'est pas tant une situation qu'une relation. Quand votre maman, votre papa, ou votre frère, ou votre sœur, ou votre grand-parent a besoin d'aide, très souvent, vous avez envie de lui apporter. Je crois que Manon a dit quelque chose de très, très juste et qui revient systématiquement. On parlait tout à l'heure de d'autres aspects qui reviennent systématiquement, comme la vigilance. Eh bien, le sentiment de maturité plus accrue que celle de leur père, c'est très fréquemment exprimé. Et ce sentiment de maturité, c'est aussi quelque chose qui vient de cette relation d'aidance et de ce qu'on peut considérer comme une sorte de fierté à être là pour son proche, à le soutenir, à l'accompagner, à l'aider, voilà, physiquement, psychiquement, apporter du soutien moral, et ça donne une sorte de fierté. C'est très important de le rappeler, et je crois que Guillemette a fait un très très joli travail dans ce dossier avec l'équilibre justement entre les risques psycho-médico-sociaux qu'encourent ces jeunes et les savoirs expérientiels, les compétences psychosociales qu'ils peuvent acquérir grâce à cette relation d'aidance.
Guillemette, vous êtes d'accord? C'est ce que vous avez, vous, remarqué en réalisant le dossier?
Oui, voilà, c'est savoir expérientiel dont parle Amaranta à l'instant. C'est que beaucoup, comme Manon la première qui est ici avec nous, la maturité, l'empathie, beaucoup me parlent de, grâce à leur situation de proche aidant, de jeune aidant, ils ont développé une capacité d'écoute, même de aussi, beaucoup me disaient de, ok, on perd une certaine naïveté de la vie, donc parfois qui est propre à l'enfance, donc c'est un petit regret aussi hein, de leur part. Et en même temps, il y a des choses graves et des choses moins graves, quoi. Gabrielle, notamment, qui a 16 ans, qui m'évoquait son donc père qui a eu un accident de voiture et qui a été finalement amputé d'une jambe et qui a été pendant longtemps hospitalisé à la maison, la maman toujours un peu à droite et à gauche et elle s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs, me disait maintenant, je sais un peu qu'est-ce qui est grave dans la vie et grâce aussi un peu à cette situation, elle a envie de venir kiné parce qu'elle a vu tellement de kinés venir chez ses parents pour aider son père. Et ça lui a donné, en tout cas à 16 ans là maintenant, mais cette vocation, ce désir de devenir, appartenir au corps médical. Donc il y a des douleurs, il y a des souffrances, mais il y a aussi des petites pépites aussi à souligner.
Il y a un terme qu'on n'a pas encore évoqué ensemble ce matin, c'est le terme de se responsabiliser. Et pourtant, ça a vraiment une importance. Manon Dubois, pour vous, est-ce que vous avez senti peut-être un besoin de vous responsabiliser, mais rapidement, de manière automatique, presque inconsciente?
Justement, c'est ce que vous venez de dire. Je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais. J'ai toujours eu le sens des responsabilités, d'essayer de penser à gérer ça, mais ne pas oublier ça. Et c'est vrai que même dans ma vie quotidienne, maintenant, je suis quelqu'un de très organisé, tout est cadré, tout est millimétré. Et si ça sort un petit peu du cadre, c'est là où je peux être moins à l'aise avec tout ça. Donc oui, je pense que ça responsabilise totalement. Après, c'est vrai que puisque moi, j'étais vraiment très jeune, j'ai pas le souvenir de mon... Alors, moi, c'est la maladie de Parkinson, donc c'est vrai que c'est une maladie dégénérative. Et au début, mon papa... les souvenirs que j'ai, par exemple, quand je faisais de l'orthophonie, c'est mon papa qui m'amenait. Il était déjà malade, mais ça ne se voyait pas. C'est vraiment... comme c'est une maladie dégénérative, on sent que, par exemple, depuis quelques années maintenant, on voit vraiment la différence, que ce soit nous ou même lui, parce qu'il s'en rend vraiment compte... que la maladie prend beaucoup plus de place et prend le dessus en fin de compte.
Amaranta Bourgeois, sur la responsabilisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est souvent le cas chez les jeunes aidants? Y a une maturité qui arrive très vite mais qui n'est peut-être pas normal pour leur âge. Et ça, il faudrait quand même le rappeler ce matin, Maranta.
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ouais. La maturité, l'empathie aussi, c'est très important. Voilà, Guillemette et Manon ont toutes les deux utilisé le terme, je crois. Tout dépend de la situation familiale. Il est évident que dans une situation familiale monoparentale, par exemple, eh bien, le jeune va être amené à être plus aidant que dans une cellule familiale où il y a déjà 6 membres. Voilà, hein. Ça, c'est très important de le dire. On a vu, peut-être que votre public l'a vu aussi, le reportage d'Envoyé spécial la semaine dernière, où on voit très bien une jeune fille qui vit seule avec sa maman et qui est responsable d'énormément de choses, y compris d'aller faire les courses, y compris d'aller chercher les médicaments à la pharmacie, y compris des gestes de soins et d'attention permanent auprès de sa maman en situation de handicap. Donc oui, ce qui nous semble important, c'est de veiller à l'équilibre de ce que le jeune psychiquement et physiquement est en capacité de faire. Le vrai sujet aujourd'hui, je crois, et notre association milite beaucoup pour ça, c'est que toutes les personnes, tous les proches vulnérables puissent disposer des aides humaines, du nombre d'heures d'aide humaine dont ils ont besoin. Et que ça, c'est plutôt à nous, société, d'organiser des systèmes d'aide à domicile pour aider les personnes qui en ont besoin et peut-être parfois soulager un peu ces jeunes, et notamment dans des situations comme celle que je viens de décrire. Mais tout en gardant à l'esprit que la grande majorité des jeunes nous disent, encore une fois, qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, qu'ils aiment, même si ça les saoule, comme elle l'a dit très bien dans le reportage, la jeune Isaline, et c'est quand même quelque chose qu'ils ont envie de faire. Il faut juste faire en sorte que ça n'ait pas autant de répercussions sur leur santé physique, sur leur santé psychique, sur leur scolarité et sur leur vie sociale.
Mais voilà. Parce que ces jeunes ne s'autorisent pas vraiment non plus à dire non pour aider à Maranta.
Virginie Boudier, donc psychologue pendant nos ateliers Cinéma Répija en Essonne. Oui, c'est difficile de s'autoriser à dire non lorsqu'on sait que le proche compte sur nous. Et c'est difficile de s'autoriser des espaces de répit, juste des moments pour souffler. On fait passer les besoins de l'autre avant ses propres besoins. Et ça, voilà, c'est là où on attire une forme de vigilance. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner pour éviter que ces situations deviennent des situations trop complexes? On le voit déjà chez les aidants adultes, et sans pour autant connaître les parents de Manon, mais une maman en burn-out, généralement, c'est parce que, voilà, lié à la situation et sa propre relation d'aidance, en l'occurrence avec son époux. Donc si ça arrive à des aidants adultes, vous imaginez bien que sur des aidants plus jeunes, les impacts peuvent être encore plus délétères, notamment, et ça nous anime beaucoup de travailler sur ce sujet-là, notamment les difficultés scolaires, parfois le décrochage scolaire total pour pouvoir être là auprès de son proche. Mmh. Et ça, je crois que c'est important.
Et ça dépend aussi de la situation des fratries, Guillemette de Préval, et ça, vraiment, vous le dites beaucoup, en tout cas, on le retrouve à plusieurs reprises dans le dossier Nous autres jeunes aidants. Parfois, au sein même d'une fratrie, quand il s'agit de s'occuper d'un parent, ça peut créer des situations vraiment compliquées, même très tendues.
Très tendu, oui. Bah, alors, par exemple, notamment si on a la place de l'aîné dans la famille, par exemple, c'était le cas de cette jeune fille Gabrielle de 16 ans. En soi, c'était pas elle qui aidait le plus son père, donc qui était hospitalisé pendant longtemps à la suite d'un accident. Mais elle avait trois frères et sœurs derrière elle. Donc c'est sûr que toutes les répercussions le bouleversement de l'accident du père, donc la mère essayait de tant bien que mal de gérer ce front-là et le front de la maison. L'image du front est pas forcément la plus belle, mais voilà, c'est deux pôles. Et voilà, elle, cette jeune fille Gabrielle, avait 10-12 ans et elle s'occupait de faire les devoirs de ses frères et sœurs, de coucher ses frères et sœurs quand la maman n'était pas là et qu'elle était au chevet de son mari. Donc ça, lorsqu'on a un aîné de famille, je pense, ou un enfant unique, forcément la situation est beaucoup plus complexe.
Manon Dubois, comment ça s'est passé avec vos frères et sœurs, rapidement, puisqu'il va falloir qu'on marque une pause dans quelques instants?
Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est très 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 soudés. C'est-à-dire qu'on a énormément d'écart, comme je vous l'ai dit, 14 et 18 ans, mais on est vraiment tous les jours en train de se parler et on se relaie. Alors forcément, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être un petit peu plus la répercussion psychologique de voir l'état de mon père se dégrader, de prendre en charge psychologiquement des fois les problèmes de ma maman, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on est vraiment soudés et je trouve que c'est ce qui fait notre force, parce que je pense par exemple à Wassim ou un autre enfant unique, c'est pas du tout la même approche et je pense que c'est beaucoup plus dur.
Ouais. Ça, Guillemette, ça vous a marqué quand vous les avez interviewés, notamment Wassim?
Oui, complètement. C'est ce que Amaranta disait, ouais. Lorsqu'on ne peut pas s'autoriser à dire non. Lui, typiquement, donc, sa mère a une maladie neurologique qui lui cause des grandes fatigabilités, des migraines très fortes. Et donc, lorsqu'elle rentre du travail, elle doit s'allonger. Et par exemple, c'est lui qui fait le repas, le dîner. Il n'y a que lui qui peut le faire.
Et on va continuer d'en parler dans Je pense donc j'agis avec vous trois, Guillemette, Amaranta, Manon. Et puis bien sûr avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Si vous avez été aidant plus jeune, vous êtes occupé d'un de vos parents ou d'un membre de votre fratrie, venez témoigner au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis, nous parlons de la situation des jeunes aidants en France avec nos trois invités, avec vos témoignages également au 04 72 38 20 23. Tous les témoignages sont importants, hein, si vous avez été aidant, que vous étiez jeune, que vous êtes occupé d'un parent ou d'un membre de votre fratrie, racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette expérience au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf. Un peu de musique.
Dis-moi comment, toi comment tu fais, avec tes défauts et ce foutu reflet, le regard des gens, toi tu dis tu t'en moques, paraît que c'est l'époque, que ça passe avec le temps. J'ai caché des larmes, arraché des rires, mais les monstres qui parlent me réveillent la nuit. Je veux plus entendre rien maintenant que le bruit du silence. Le bruit du silence. Le bruit du silence. Au revoir les doutes, les j'y arriverai pas. Et tout ce que ça me coûte de ne pas croire en moi. Au revoir les on-dit, au revoir les on-doit. Les complexes qu'on enfouit et cette jalousie face à celle qu'on n'est pas.
Elle trouve toujours les mots justes, hein. Mentissa avec cette très belle chanson, Le bruit du silence.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Une émission consacrée aux jeunes aidants avec nos trois invités. Guillemette de Préval, je rappelle que vous êtes journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, que vous signez le dernier dossier intitulé « Nous autres, jeunes aidants ». Amaranta Bourgeois, vous êtes également avec nous, directrice de l'association nationale JAD, qui veut dire « Jeunes aidants ensemble ». Et puis Manon Dubois, vous témoignez dans le dossier de la revue Ombre et Lumière. Vous avez 22 ans, étudiante en dernière année de master et bientôt, vous allez bientôt passer le concours des professeurs des écoles. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous avez connu cette situation d'aidance pour votre papa et votre maman. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, on vous écoute.
Alors voilà, moi je voulais vous dire que mon mari et moi, nous sommes handicapés, en situation de handicap visuel. Nous avons un fils unique et bon, c'est sûr qu'il nous a aidés un peu, mais on n'en a pas fait particulièrement un aidant. On l'a laissé vivre sa vie, et voilà. Et on s'est fait aider par des tiers, des tierces personnes. Il ne faut pas toujours systématiser, dire qu'il y a des familles où il n'y a pas de situation de handicap ou de maladie, et les parents travaillent tous les deux, et les enfants aident aussi. Alors, il ne faut pas toujours... ça peut être un atout aussi. Je veux dire, ça dépend comment on voit le handicap, la maladie.
Ben vous faites bien de le dire. Merci beaucoup, Michel. Et je pense que vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure à Marantois Bourgeois, mais je trouve ça intéressant d'entendre ce témoignage de la part de Michel qui nous dit qu'avec son mari, ils ont vraiment fait le choix. Alors, je ne sais pas si ça se choisit vraiment, mais en tout cas, de ne pas créer un impact sur leur enfant. Marantois, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Mais je pense que c'est très intéressant comme témoignage. Ça dit deux choses. Bien évidemment, lorsque les moyens sont là, et j'entends par là pas uniquement les moyens financiers, oui, mais l'existence de moyens, et dans beaucoup de familles, on va aller rechercher cette aide extérieure, cette aide professionnelle, pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur les différents membres de la cellule familiale et encore plus sur les enfants. Ça n'est pas toujours possible. Ça n'est pas toujours possible à la hauteur aussi des besoins des personnes aidées et de la nature de l'aide dont ils ont besoin. Maintenant, la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'on peut parler de jeune aidance ou d'aidance dans une relation à l'autre ? Et c'est très important cette notion-là parce que quand on n'en est pas conscient, parfois ça peut invisibiliser l'aide apportée par les jeunes sous couvert de ce qui est tout à fait normal, la solidarité familiale, la relation aux parents. Et vous savez, on a énormément d'adolescents qui ne partagent pas, qui ne parlent pas de leur situation. Parce que c'est difficile de l'évoquer auprès des camarades, parce que c'est un peu tabou, parce que parfois dans certaines situations, on a même peur que les services sociaux interviennent et séparent voilà la famille. Donc, je crois vraiment que la conscientisation du rôle de l'aidant, c'est un cheminement. Et ça n'est pas un cheminement obligatoire non plus pour tout le monde. Et des personnes comme Michel, que je viens d'entendre, font le choix de prioriser l'équilibre, le bien-être de leur enfant parce que c'est possible dans cette situation-là. Mais encore une fois, ça n'est pas possible dans l'ensemble des situations.
Manon Dubois, comment avez-vous réagi en entendant Michel ? Alors, on ne peut pas refaire le passé, mais est-ce que vous auriez préféré que vos parents vous mettre de côté, en tout cas, au niveau de l'aidance?
Et malheureusement, comme l'a dit Amaranta, c'est propre à chaque situation. Ouais. Et nous, ça fait partie de notre famille. Notre papa, il est malade et c'est comme ça. Et on ne se verrait pas ne pas les aider. Ouais. Et parfois, notre maman ne nous demande pas spécialement d'aide. Mais comme je l'ai dit dans l'interview avec Guillemet de Préval, c'est un nuage noir et il est là et il sera toujours là. Et malheureusement, nous, il est là et de manière beaucoup plus forte au fur et à mesure, que les années passent. Donc alors, en effet, lorsqu'on a la possibilité de ne pas inclure ses enfants, etc., je suis totalement d'accord avec Michel, mais c'est vrai que nous, ça fait partie, on ne se verrait pas ne pas les aider à notre échelle.
Vous avez senti ce besoin, vous, d'en parler, d'extérioriser ?
Alors, c'est ce que je vous avais dit. En fait, j'ai toujours eu conscience que je devais me faire aider. Alors, je n'ai aucun problème avec tous les psychologues, etc., justement. Mais je pense que je n'avais pas atteint le trop-plein émotionnel que j'ai ressenti il y a quelques mois maintenant, parce que c'est vraiment très récent, et je pense que c'est vraiment le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin des études, le début de la vie active, un concours qui est très stressant à préparer, la fatigue à gérer, l'alternance parce que je travaille aussi, et aussi tout ce schéma familial qu'on explique depuis tout à l'heure. Et je me suis rapprochée d'une association Picard, oui. Donc un instant de répit, qui m'a justement orientée vers l'association JADE, puisque mon cas relevait plutôt des jeunes aidants, et vraiment je les remercie vraiment. Oui, c'est ça. Je les remercie vraiment parce que maintenant, au quotidien, je me fais suivre psychologiquement. Et c'est ce que je disais à Guillemets de Préval, c'est qu'en faisant le témoignage et, par exemple, passer avec vous sur cette émission radio, je pense que ça m'aide, moi, dans mon cheminement. Et comme je sais que ce témoignage et la lecture de l'article peut aider d'autres personnes, cela me fait aussi plaisir. Je pense que ça a un double sens. Me fait du bien et en même temps, ça me fait plaisir de me dire que ça peut potentiellement aider d'autres jeunes dans ma situation.
Tant mieux, Manon, et on est heureux vraiment de vous entendre ce matin. Et je suis convaincu que ça pourrait aussi en aider plus d'un qui nous écoute ce matin, dont je pense donc j'agis. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Maine-et-Loire. Bonjour, on vous écoute.
Oui, je vous remercie pour votre émission et pour tous les participants qui sont très... c'est très riche, toutes les interactions que je peux entendre. Moi, je voulais apporter un témoignage indirect, c'est-à-dire, en fait, j'ai eu une voisine qui a 89 ans et qui a, quand elle était jeune, donc elle avait 6 ans, vécu la mort de sa mère la dépression nerveuse de son père. Et elle a dû prendre en charge son père avec sa dépression nerveuse et ses petits frères. Et c'était pendant la guerre. Donc je rappelle ça parce que après cette femme, elle a pu poursuivre des études, elle a eu un métier, et encore maintenant, elle s'occupe des autres tout le temps. Elle est tout le temps active à s'occuper des autres. Et je voulais apporter surtout une réflexion pour dire que j'ai remarqué chez les aidants, moi je suis aidante moi-même, mais d'une personne âgée, donc je suis adulte, donc l'émission ne me concerne pas tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas de questions qui se posent. La personne, c'est une personne qui va avancer, qui va gérer toutes les situations et qui porte en elle une force, quelque chose d'assez inouï, et un amour des autres qui surpasse l'amour de soi. Et je trouve que c'était à pointer ça, parce que on parle d'extérioriser, on parle de conscientiser.
Oui.
Maintenant, on est au 21e siècle. C'est vrai que les apports de la psychanalyse et de la psychologie ont fait ce qu'il faut pour que les personnes souffrent le moins possible les uns et les autres. Mais en même temps, cette force magnifique qu'ils ont, ça les porte à devenir des personnes exceptionnelles aussi, comme cette jeune fille là qui fait des études, qui fait de l'alternance, qui s'occupe de son père, qui peut aussi suivre une thérapie. Elle a vraiment un potentiel extraordinaire. Moi, je suis admirative. Et c'est une force magnifique qu'elle a en elle, qui n'est pas donnée à tous. Et je trouve que je pensais qu'il fallait le souligner.
Voilà. Merci vraiment, Catherine. Merci pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. C'est très beau, hein. Guillemette de Préval, je me tourne vers vous. Catherine, elle nous dit, c'est l'amour des autres au-dessus de l'amour de soi. C'est fort. Ça, pour le coup, je l'ai pas lu dans votre dossier. Vous pourriez rajouter parce que vraiment, c'est très pertinent. Mais est-ce qu'il y a un peu de ça quand même dans tous les témoignages que vous avez pu recueillir?
Alors, je pense notamment à un témoignage de Jérémy, lui qui a grandi dans une famille un peu particulière. Il a ses deux parents qui étaient sourds, et son grand frère également. Et il avait simplement un petit frère et lui, donc qui entendait. Et lui, mais donc quand je l'ai interrogé, lui, il a plus d'une trentaine d'années, il a 39 ans. Donc il était en capacité de dire ça, enfin un peu les mots à l'instant que vient de dire cette auditrice, Mais je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout, enfin, de d'être en capacité de dire voilà, l'amour que j'ai déployé, que j'ai donné pour mes parents, ça m'a porté, ça m'a fait grandir, ça m'a nourri. Voilà, je pense que demander à un jeune aidant qui est en plein dans les mains dans le cambouis entre guillemets, qui essaie de construire sa vie tant bien que mal, comme l'évoquait Manon, voilà, c'est des mots qui peuvent être aussi un peu, enfin pas violents, mais un peu lourds à porter. Donc voilà, c'est complètement vrai ce que dit cette auditrice, mais je pense que ça peut être dit avec un peu d'années de recul, un peu de bouteille, je pense.
Amaranta.
Merci beaucoup. Oui, faut pas oublier, merci Guillemette, de toucher du bout du doigt ce point-là. La grande majorité des jeunes aidants se sentent seuls, isolés, différents des autres. Donc ce qui a été dit n'est pas valable à tous les moments de la vie et de la relation des danses. Et je crois que dans le cas des adolescents, tout particulièrement, ils peuvent pas encore prendre conscience des côtés un peu positifs de l'aidance. Ils sont dans des difficultés quotidiennes à arriver à concilier le fait de pouvoir laisser leurs parents pour aller au collège, le fait de renoncer à des activités extrascolaires comme leurs camarades de classe ou de renoncer à partir en vacances comme leurs camarades de classe pour pouvoir être là auprès du proche qu'ils aident. Et c'est peut-être plus tard dans la vie qu'on arrive à conscientiser les côtés, les aspects peut-être qu'on peut voilà considérer comme étant positifs. Il faut pas oublier que l'adolescence c'est quand même une période charnière dans la vie, hein, et qu'on traverse tout un tas d'émotions même sans être dans une relation d'aidance auprès d'un proche. Donc il faut faire, je crois, très attention et avoir des discours assez mesurés pour pouvoir ne pas ajouter en plus une forme de culpabilité supplémentaire à ces jeunes qui pourraient se dire je devrais être content de cette situation parce que je suis présent pour mon proche, mais j'y arrive pas, quoi.
On va vous laisser reprendre votre souffle. D'ailleurs, au niveau culpabilisation, ça tombe bien puisqu'on a une auditrice qui voudrait témoigner. C'est Eliane qui habite proche de Dole. Bonjour Eliane. Eliane, est-ce que vous êtes avec nous au 04 72 38 20 23? Eh ben, Eliane n'est plus là. Bon, eh ben Eliane n'est plus là. C'est pas grave, si jamais vous nous entendez, vous nous rappelez. Alors, c'est vrai qu'on est là ce matin dans Je pense donc j'agis pour aussi trouver des pistes, des solutions pour réfléchir. On a parlé de l'impact quand même assez psychologique, émotionnel et social d'un jeune aidant. Que fait la politique? Alors, je me tourne vers vous, Amaranta Bourgeois, parce que je sais que c'est un sujet que vous travaillez énormément. En octobre 2019, il y a déjà quelques années, le gouvernement avait lancé un plan, une stratégie qui s'appelait Agir pour les aidants, qui avait pour but d'aller jusqu'en 2027. Qu'en est-il de la situation des jeunes aidants? Est-ce que c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps au niveau du gouvernement, Amaranta?
Pour être très clair, pas suffisamment à mon goût. Néanmoins, il y a quelques avancées et des choses dont les politiques publiques en France n'ont pas trop à rougir. Vous le disiez, il y a eu le plan Agir pour les aidants 2020-2022, qui était un premier plan de politique publique pour les aidants, quel que soit leur âge, dans lequel figurait un volet dédié aux jeunes aidants. Et qui mettait en avant la nécessité de sensibiliser auprès des professionnels de l'éducation nationale. Parce que clairement aujourd'hui, où est-ce qu'on les repère? On les trouve où, ces jeunes aidants? Eh bien, on les trouve dans les établissements scolaires, on les trouve aussi dans les salles d'attente des médecins, où ils accompagnent leurs proches. Donc il y a un premier socle de bonnes intentions, de sensibilisation, et notamment auprès de l'éducation nationale. Il y a aussi le fait que cette sensibilisation, à mon avis, elle doit être encore plus large. Oui. Je parlais des professionnels de santé, mais aussi du grand public. Parce que très clairement, qui est moteur, qui pousse pour que les politiques publiques se développent, eh bien, c'est le grand public, c'est tout le monde. Si on regarde autour de nous, moi j'ai 52 ans, autour de moi il y a beaucoup de mes amis, de mes connaissances, qui aujourd'hui souffrent d'un cancer ou une autre pathologie. Et finalement, qui se pose la question de ce que font ces enfants? Est-ce qu'ils sont aidants ou pas? Comment est-ce qu'on peut accompagner ou pas? Il y a une espèce d'invisibilisation du sujet en général. Donc il y a cet aspect de sensibilisation et puis il y a la notion de répit. Le fait, et donc c'était la première association que Manon a contactée, hein, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut offrir du répit à ces jeunes, les sortir de leur cellule familiale, leur donner des temps de répit, des lieux d'expression. Et bien là c'est précisément l'ADN de notre association, hein, avec ces ateliers JAD qui aujourd'hui sont développés dans 19 départements en France. Et ce répit-là, je crois qu'il doit être financé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un droit au répit de ces jeunes et une prise en charge financière de ce répit par les pouvoirs publics. Donc nous militons beaucoup pour ça. À ce stade, vous savez comme moi que la stratégie Agir pour les aidants a été renouvelée l'année dernière, mais il n'y a pas le même focus mis sur les besoins des jeunes aidants. Et nous n'avons de cesse, avec la présidente de l'association, la fondatrice présidente Françoise Hélien, d'essayer de mobiliser les pouvoirs publics et les acteurs, les organismes publics sur la question.
Manon Duboile, de quoi aviez-vous besoin? Est-ce que maintenant, en ayant pris peut-être un peu de recul, vous sentez que quand même vous avez vécu une sacrée expérience et que parfois vous sentiez un peu seul dans la bataille?
Pour revenir juste sur ce que disait Amaranta et l'auditrice Catherine, c'est que je pense que la prise de conscience que le fait d'être aidant et jeunes aidants nous apporte un plus, et mais aussi parfois que c'est très difficile. En fait, ce sont des cheminements de pensée qui s'entremêlent au quotidien. On a des moments où, forcément, comme tout le monde, on va penser que cela est très dur à vivre, et d'autres que c'est vraiment une force. Et pour rebondir sur ce que disait Amaranta, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir en profiter, mais je trouve ça bien que c'est tout récent, je crois, Amaranta, dites-moi si je me trompe, mais maintenant, dans les universités, le statut de jeune aidant est reconnu. Et c'est vrai que ça m'est arrivé pendant mon cursus, surtout cette année et l'année dernière, de ne pas avoir de justificatif pour expliquer que j'étais très fatiguée ou que le soir, je m'étais couchée très tard parce que j'avais fait l'aller-retour à l'hôpital pour ma maman. On se sent obligé de toujours justifier. Mais qui dit justifier dit tout raconter. Et c'est vrai que c'est des choses... alors moi, ma faculté à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens n'a jamais posé de problème avec ça, mais je pense que c'est vraiment essentiel qu'on reconnaisse le statut des étudiants, surtout et pour pouvoir justifier des fois des situations qui nécessitent pas de certificat médical ou autre.
Donc il y a eu une avancée à Maranta Bourgeois de ce côté-là.
Avancée de la reconnaissance des étudiants aidants en cette rentrée scolaire 2023-2024. Ça faisait partie du projet politique et stratégique de l'association depuis des années. Donc on a été très très contents de voir que ça a été pris en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces élèves étudiants peuvent bénéficier du RSE, c'est-à-dire un aménagement des temps d'examen, un aménagement d'études, mais également de 4 points de charges supplémentaires pour la bourse étudiante, ce qui fait que certains qui n'étaient pas éligibles à la bourse sur critères sociaux le sont aujourd'hui, et d'autres ont gagné donc 4 points de charges supplémentaires. C'est d'autant plus important que, et Manon connaît notre groupe de jeunes étudiantes aidantes, c'est d'autant plus important que parfois ces jeunes ont eu la possibilité de quitter leur domicile familial pour faire leurs études ailleurs, et rentrent tous les week-ends pour pouvoir être présents et accompagner, organiser la semaine de leurs proches. C'était le cas de Romane, que vous avez pu peut-être voir, en tout cas dans les témoignages sont sur LinkedIn, le groupe d'étudiants aidants, où tous les week-ends, il fallait qu'elle rentre chez elle, voir sa maman, s'assurer que tout était organisé pour la semaine, que les courses étaient faites, etc., tout en étant étudiante. Et ça a un coût, évidemment. Et donc, Romane prenait les trains très tard le soir ou très tôt le matin pour limiter les coûts et pouvoir tout concilier. Et je crois que ces 4 points de charge supplémentaires de bourse, en ça, ils sont extrêmement importants. Et c'est finalement aussi une forme de reconnaissance qu'on peut être étudiant et aidant. Je rappelle les résultats de Campus Care, hein, 15,9% des étudiants sont des aidants. Et on pense tout de suite qu'ils portent 2 casquettes, étudiants et aidants. Mais très souvent, ils sont aussi salariés avec des 3. Jobs d'emploi, des jobs d'étudiants, pardon. Donc 3 casquettes, vous imaginez comment ça peut être difficile de concilier tous ces temps de vie.
On a retrouvé Iliane au 04 72 38 20 23. Bonjour Iliane.
Bonjour.
Vous étiez là, mais on a eu un souci technique. Hein. On
oui,
vous écoute.
Il n'y a pas de souci. Alors bon, moi je veux parler de quelque chose qui est un peu ancien, puisque c'était dans les années 95, mais j'étais travailleur sociale, et donc il y a une petite fille qui a été placée chez nous parce que son papa était, un problème de harcèlement sur la gamine, enfin des choses au niveau psychique, quoi, et la maman était déficiente. Et donc elle a été placée dans une maison d'enfants, et cette gamine, elle était aidante de toute façon avec tous les autres enfants. C'était assez incroyable. Elle rentrait le week-end chez ses parents et on avait la sensation qu'elle allait quand même bien malgré tout ce qu'elle pouvait vivre.
Oui.
Et puis son papa s'est suicidé et là, ça a été un effondrement pour elle. C'est comme si elle avait eu une grande culpabilité de parce qu'elle n'était pas là, elle n'a pas pu aider. Et que du coup, l'irréparable s'est fait. Donc elle a beaucoup plus porté cette mort que, enfin, en tout cas apparemment, hein, après qu'est-ce qui se passait vraiment en elle. Mais bon, elle avait l'air, et puis elle a continué, alors après, à être aidante avec tout le monde. Donc je voulais juste en témoigner, je ne la vois plus, mais je voulais juste en témoigner, elle s'appelait Patricia, et je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma carrière professionnelle, de me dire que des gamins très tôt peuvent être aidants, et on ne sait pas toujours bien ce qu'ils peuvent vivre intérieurement.
Voilà. Merci beaucoup, Iliane, pour votre témoignage, d'où la prévention, guillemette de Préval. Et ça aussi, vous l'avez marqué à plusieurs reprises hein, dans le dossier de la revue Ombre et Lumière. C'est aussi l'objectif de l'émission, je pense. Donc j'agis, on a vraiment posé le décor, on a entendu le témoignage de Manon et puis de nos auditrices et nos auditeurs. Il y a aussi un volet prévention qu'il faut beaucoup plus mettre en avant de nos jours. On n'est plus en 1995, comme le disait Iliane.
Oui, complètement. Et bah, sur cette question-là de la prévention, j'avais envie de parler d'une initiative voilà, dont on m'avait parlé, l'association La Pause Brindy. Donc, c'est une association qui est à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise.
Qu'on va accueillir à 10h.
Hein. Ouais. Ah bah voilà, donc on va bientôt en parler. Et notamment, sur ce souci-là de prévenir, une belle initiative qui vient d'être mise en place, voilà, qui est encore un peu... balbutiante, mais de proposer à des jeunes aidants d'être ambassadeurs dans leur propre école et en fait de l'association les forme notamment à l'écoute, à la possibilité de parler de leur situation de jeunes aidants, mais les jeunes aidants eux-mêmes et donc en fait dans leur classe, dans leur groupe d'amis, etc. de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément encore osé parler de leur situation d'aller les voir et de bah, comme à chaque fois hein, quand on est en plusieurs, on est plus fort et donc on peut partager cette souffrance, ce qui nous arrive en commun. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative en termes de prévention, donc voilà, qui est fait à une petite échelle, mais peut-être qu'il y a d'autres initiatives de ce type qui fleurissent. Je n'ai pas tout en tête, mais
ouais. C'est important d'en parler. Manon, vous voulez réagir, Manon Duval?
Oui, je voulais simplement réagir sur le témoignage de l'auditrice précédente, Eliane, je crois,
oui,
qui disait que cette petite, sûrement en très grande souffrance, ne le montrait pas et ne le faisait pas savoir. Mais la plupart des... Ah, je vais faire une
généralité, certaine, ouais.
Généralité, mais si on montre que nous, en tant que jeunes aidants ou aidants, on ne va pas bien... on n'a pas envie d'impacter les autres. Je sais que avec mes amis, c'était très très rare, et tout le monde me disait toujours « Mais Manon, comment tu fais ? T'es toujours en train de sourire, toujours. » Mais parce qu'on n'a pas envie, je pense, qu'on se fait une carapace et on n'a pas envie de montrer que on ne va pas bien parce qu'on a un petit peu le pilier à certains moments de notre famille, etc. Et c'est vrai que même avec ma famille, c'est très très rare qu'on montre qu'on ne va pas bien.
C'est passé très vite et c'est très vexant parce qu'il y aurait tant à dire sur la situation des jeunes aidants, mais c'est pas grave, on refera. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Manon Duboil pour votre témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis. On peut vous lire également dans le dossier Nous autres jeunes aidants de la revue Ombre et Lumière. Merci à Maranta Bourgeois pour votre participation une fois de plus. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Jade, c'est le nom de l'association que vous représentez, à retrouver sur le site internet jeune au pluriel aidant.com. On mettra le lien sur notre site rcf.fr. Merci à Maranta. Guillemette de Préval, vous restez pour la seconde partie de Je pense donc j'agis. On va accueillir dans un instant la Pause Brindille et l'association Soliane pour accompagner les jeunes aidants. Vous avez toujours et encore la parole pour témoigner. On vous attend au 04 72 38 20 23. À tout de suite.